France Culture.
Entrez donc dans la danse des midis de culture. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout à l'heure, à 13h, je recevrai le duo Bonnie Banane et Joseph Schiano di Lombo. Mais tout de suite, c'est Marie Sorbier, c'est le Point Culture.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui, Marie, un petit voyage en ce début d'été, alors pas très loin, puisque nous allons nous intéresser aux maisons de plaisance dans les environs de Paris. Et oui, un voyage au cœur de la villégiature d'autrefois, entre résidences royales et maisons de campagne, car le domaine royal de Marly propose tout l'été une exposition qui explore ces maisons de plaisance de Louis XIV à Napoléon III, et c'est le dossier du Point Culture du jour. Anaïs Bornet, bonjour.
Bonjour Marie Sorbier.
Vous êtes historienne de l'architecture et co-commissaire de l'exposition qui s'intitule « Maisons de plaisance des environs de Paris ». Alors c'est un sujet peu abordé, hein, ces vestiges de la villégiature francilienne. Devant quel type de bâtiment nous trouvons-nous ? De quoi on parle ?
Alors, les maisons de plaisance, c'est effectivement un peu difficile d'établir une typologie de l'architecture, parce que selon les époques et les propriétaires, on peut très bien se retrouver face à un château français classique, comme par exemple Vaux-le-Vicomte ou Champs-sur-Marne dans le Val-de-Marne, pour les exemples les plus connus. On peut aussi se retrouver face à des maisons plus ou moins modestes, des pavillons et des folies, c'est-à-dire des édifices plus petits, toujours aussi luxueux, mais plus petits et plus proches de la ville. On a encore quelques exemples aujourd'hui qui sont englobés dans Paris, notamment le Carré de Baudouin dans le 20e, ou encore la Folie Beaujon dans le 8e arrondissement. Et puis, enfin, vers le 19e siècle, fin du 19e siècle, les maisons de plaisance prennent aussi l'allure de chalets, de chaumières, d'édifices avec des petites inspirations médiévales qu'on appelle néo-gothiques. Toutes ces demeures en pierre de meulière qu'on retrouve aujourd'hui encore beaucoup autour de Paris.
Est-ce qu'il y a une différence architecturale entre ce qu'on appelle maison de plaisance et maison de campagne ?
Pas du tout. En fait, les maisons de plaisance ont beaucoup de termes différents pour les désigner. On peut aussi bien dire maison de campagne, il y avait aussi à une certaine époque maison de village. Le point commun pour ces demeures, c'est effectivement d'être hors de la ville, et la nature était le point central, l'objectif pour ses occupants.
Diriez-vous quand même que cette habitude de la villégiature a façonné les paysages d'Île-de-France ?
Oui, très certainement. Déjà parce que ces grandes demeures étaient dotées obligatoirement d'immenses parcs et jardins. On retrouve encore des restes de ces parcs, bien sûr plus petits, mais on en retrouve encore beaucoup autour de nous en Île-de-France. Ces demeures aussi ont entraîné beaucoup d'aménagements, notamment des routes, des allées, etc. Et aujourd'hui, les Franciliens utilisent encore ces routes, ces rues, sans s'en apercevoir. Il y a des anciennes allées de jardin qui sont devenues de vraies rues pour les voitures. Et puis aussi, on a quelques vestiges de petits pavillons, d'anciens murs de jardin. On a dans la toponymie aussi, on a aussi des noms de rues qui rappellent un peu ce patrimoine disparu.
Alors pour revenir à l'exposition, hein, Maison de plaisance des environs de Paris, quel type d'artefacts sont exposés au domaine royal de Marly ? Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition ?
Alors, dans cette exposition, on a essayé de présenter le plus d'objets diversifiés possible, et bien sûr en s'intégrant avec la collection permanente du musée. Il faut savoir que Marly est un ancien château de plaisance de Louis XIV, aujourd'hui à Marly-le-Roi, donc dans les Yvelines. On a une belle maquette du château, on a beaucoup de portraits aussi du roi et de son entourage, on a quelques tableaux aussi de chasse, notamment de chiens de chasse que les rois avaient commandés à leurs artistes. On a également voulu présenter dans cette exposition quelques éléments de décor. On a des boiseries, on a aussi des anciens traités d'architecture du XVIIIe siècle, parce que les théoriciens à l'époque s'attachaient à vouloir publier des modèles et donner des préconisations sur comment construire ces maisons de plaisance. On a également aussi des restitutions 3D de maisons de plaisance qui ont aujourd'hui disparu, qui présentent les décors, les anciens décors, les anciens jardins, etc.
Alors, vous l'avez dit, on voit à quel point, derrière ce terme maison de plaisance, il y a beaucoup de types architecturaux différents. Pourquoi les architectes aujourd'hui et les historiens de l'art s'intéressent particulièrement à ces architectures de loisirs? Qu'est-ce qu'on y apprend?
Eh bien, tout d'abord, on s'y intéresse, à mon sens, parce que c'est un patrimoine qui peut être encore menacé aujourd'hui. Parfois abandonné, parfois menacé de démolition quand ce n'est pas protégé. Et c'est un patrimoine qui vit encore, qui doit s'adapter aux usages d'aujourd'hui et aux besoins de l'urbanisation, etc. Donc c'est un patrimoine qui nous tient à cœur et auquel on fait très attention, parce que il est toujours voué soit à disparaître, soit à être transformé, pas toujours de manière heureuse.
Oui, parce que ce qu'on appelle les environs de Paris, enfin ce que vous appelez les environs de Paris dans le titre de cette exposition, on pourrait aujourd'hui dire que ça correspond plus ou moins au Grand Paris, c'est-à-dire que c'est une zone urbaine. Donc, on a du mal parfois à imaginer de ces maisons de plaisance dans cet environnement-là.
Oui, tout à fait. Les environs de Paris, en fait, c'est ce qui désigne en gros aujourd'hui la région Île-de-France. Et c'est vrai qu'avant les années 1860, la campagne était vraiment aux portes de Paris. Les derniers arrondissements à intégrer la ville étaient encore la campagne, et donc on voyait beaucoup de maisons de plaisance avec de grands parcs à ces endroits-là, et qui sont maintenant aujourd'hui englobés dans la ville.
Merci beaucoup Anaïs Bordet. Je rappelle que l'exposition dont vous êtes co-commissaire, Maison de plaisance des environs de Paris, se visite au Domaine Royal de Marly jusqu'au 31 août. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie-Thomas Joly est nommé président de la commission jeux vidéo du CNC.
Oui, après les Jeux Olympiques, les jeux vidéo, le metteur en scène, directeur artistique des cérémonies des Jeux de Paris l'année dernière, a été nommé à la tête de la commission de ce fonds, doté d'un budget annuel de 5 millions d'euros qui fournit des aides destinées à accompagner toutes les phases de réalisation d'un titre. Depuis l'enfance, je joue, a déclaré Thomas Joly en précisant qu'au ludisme s'est adjoint au fil des ans l'émerveillement permanent pour un art qui ne cesse de repousser les limites de la création.
On connaît les grands vainqueurs de la 7e cérémonie des trophées de la comédie musicale.
Et c'est sans surprise, Marie, les Misérables, comédie musicale culte de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, qui a raflé la mise avec 7 récompenses pour la meilleure reprise, la meilleure mise en scène, signée Ladislav Chola, le second rôle masculin, la révélation féminine et masculine, ou encore les costumes. 3 trophées ont été décernés au musical de poche Virginie et Paul, dont celui de la comédie musicale de l'année. Et La Haine, mise en scène par Mathieu Kassovitz, a reçu le trophée du collectif et celui de la chorégraphie. Un trophée d'honneur a été attribué au Caramel Fou, troupe amateur et association gay, pour leurs 40 ans de carrière.
Louis Langrée est reconduit à la tête de l'Opéra Comique jusqu'en 2029.
Ce chef d'orchestre de renommée internationale, qui avait été nommé en octobre 2021, a été reconduit par le président de la République. De juin 2026 à juin 2027, Louis Langrée pilotera d'importants travaux sur la cage de scène historique de la salle Favart, pour la moderniser et la rendre notamment accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux obligeront l'institution à fermer pendant un an, et ce sera alors l'occasion de nombreux rendez-vous hors les murs, dans le quartier bien sûr, mais aussi ailleurs en France et à l'étranger.
Et pour finir, Marie, le Papotin spécial théâtre va sortir en kiosque le 2 juillet.
Oui, ce magazine atypique, préparé par des journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Le co-rédacteur en chef du prochain numéro est Eric Ruff, administrateur général de la Comédie Française. On y trouvera entre autres des rencontres avec Laurent Stocker, Charlotte Gainsbourg, Thiago Rodriguez ou encore Sylvia Costa. Et c'est nouveau depuis janvier, on peut désormais retrouver ses parutions en kiosque.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain. En attendant, il est bientôt 13h et vous êtes sur France Culture.